7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Bonjour Alimata Fofana.
Bonjour.
Il y a quelques semaines, vous nous avez écrit en nous envoyant un extrait de votre livre, Mariama, l'écorché vif, publié chez Cartala. Je dois dire que, il faut que je le dise aux auditeurs, la démarche est très inhabituelle. Une jeune auteure qui contacte elle-même les journalistes parce qu'elle n'est pas publiée par une grosse maison d'édition. Et puis il y avait votre texte qui ressemble à un cri universel d'une femme qui se bat pour que cesse une fatalité, l'excision. Alimata Fofana, vous êtes française, vous êtes née de parents sénégalais, vous avez été excisée enfant, vous aviez quel âge ?
5 ans.
Lors de vacances en famille au Sénégal, il y a cette phrase que vous ressassez dans votre livre, « Il va falloir que cela se fasse ». C'est une phrase qu'on entend dans toutes les familles avant d'emmener une petite fille chez l'exciseuse.
C'est une phrase que moi j'ai entendue étant enfant, c'est-à-dire qu'à l'époque je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. J'entendais ma grand-mère dire « il va falloir que ça se fasse ». Est-ce que tu as préparé ? Il va falloir que ça se fasse.
Une phrase qui résume un drame qui concerne 200 millions de femmes dans le monde, dont 53 000 vivent en France selon les chiffres de l'UNICEF. Alors comment sortir de cette fatalité ? Et surtout pourquoi les hommes continuent de dire qu'ils ne sont pas concernés ? Également avec nous Isabelle Gillette-Faye, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, directrice du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelle et mariage forcé, le GAMS, qui est une association qui réside en France. Évidemment, vous travaillez beaucoup avec le continent africain. Linda Veil-Curiel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous avez été l'une des premières avocates à obtenir la condamnation pénale d'exciseuse. Vous êtes responsable de la commission pour l'abolition des mutilations sexuelles, le CAMS.
Fondée par Awa Thiam, l'auteur de La parole aux négresses.
Voilà, féministe sénégalaise. Le 6 février prochain, ce sera la journée mondiale décrétée par les Nations Unies. Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Je vous lis quelques messages publiés sur nos réseaux sociaux. Vous avez déjà vu, je crois, Alimata. Vous êtes
oui.
Sur Facebook.
Oui.
Mamoudou, à Conakry. Quand vous dites tradition violente concernant l'excision, vous insultez tout un continent. On assume, on insulte.
Non, on n'insulte pas, on dit la vérité.
Tan à Yaoundé nous dit que dans le nord du Cameroun, l'excision perdure grâce aux institutions traditionnelles qui assurent sa permanence, sa reproduction dans les générations qui se succèdent. Ces institutions sont pilotées en majorité par les femmes, sous le contrôle des hommes, écrit-il entre parenthèses, qui se chargent de mener à bout cette pratique. Les jeunes filles sont sous-scolarisées, elles ne mesurent pas l'ampleur des dégâts sur leur santé et leur sexualité. Landing à Dakar nous dit que la loi et la répression ne peuvent arrêter cette excision. On en parlera, bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous nous suivez sur Facebook et sur Twitter en direct. Et bien sûr, vous réagissez. On préférerait dialoguer avec vous de vive voix.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
On accueille une voisine qui nous appelle Awa, qui est à Dakar. Bonjour Awa.
Bonjour Emmanuel.
Awa, vous avez 31 ans. Vous souhaitez nous faire part à la fois de votre histoire personnelle et surtout de ce que vous constatez autour de vous au Sénégal, c'est bien ça ?
Oui, ce que je constate autour de moi au Sénégal. Oui, allô ?
Bonjour. Oui, vous êtes en direct Awa, on vous écoute.
Oui, ok, parce que c'est la deuxième fois. Personnellement, moi j'ai été excusée.
À quel âge avez-vous été excisée, Awa ?
Bon, je ne me rappelle pas à quel âge, à dire vrai.
Est-ce que votre mère, une tante, vous a dit à quel âge vous avez été excisée ?
Bon, elle m'a dit juste que j'étais très petite. Donc la démission que j'ai faite, c'est entre 1-2 ans, voire plus.
D'accord, oui.
Oui, en ce qui concerne, par exemple, au Sénégal, parce qu'on remarque l'excision d'abord. Il faut comprendre que c'est une pratique qui est d'ordre culturel. Donc, il faut comprendre la réticence des populations parce qu'elles sont conservatrices et elles ont aussi peur du changement que cela peut apporter. Donc, sur ce, il faudrait bien mettre le point sur les approches, c'est-à-dire le focus sur l'intervention. La sensibilisation, en ce qui concerne la sensibilisation, on note qu'il y a une désinformation. Autrement dit, que les populations ne s'approprient pas des politiques d'élaboration des plans d'action.
Des politiques. Donc, et une loi qui prévoit une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans à l'encontre de l'exciseuse et des parents qui ont donné des instructions pour commettre ces mutilations. Vous connaissez des filles qui ont porté plainte ou pas, Awa?
Ben, personnellement, je ne connais pas une fille qui a porté plainte parce qu'il faut faire un témoignage véridique quand même. J'ai pas, à mon niveau,
Alimata? Parce que par rapport à ce que vous dites, s'il y a une jeune fille qui a porté plainte, il faut aussi comprendre le fonctionnement de ces familles. Dans ces familles, l'individu n'existe pas. Et c'est le groupe qui prime sur l'individu. Oser aller à l'encontre de tout un groupe, c'est quand même très très compliqué pour ces jeunes filles. C'est clair qu'il faut aussi le voir.
Y compris quand ça va à l'encontre de la loi. Hein.
Exactement. Parce que souvent, parce que vous savez, quand cette pratique est faite, vous savez, le corps de la femme, c'est très tabou. On n'en parle quasiment pas. C'est comme si la partie inférieure n'existe pas. On va parler beaucoup de le fait qu'elle ait ses règles, on va trouver que le corps c'est sale, on va mettre ça en avant. Et comment voulez-vous que ces jeunes filles qui ont grandi avec cela en tête puissent un moment se dire « je vais aller m'opposer à mes parents », c'est quand même très très compliqué. Et quand madame dit que par rapport au fait que ce soit culturel, elle parle du Sénégal, mais je sais que chez les Wolofs, on n'existe quasiment pas du tout. Chez les Soninké, on n'existe plus. Alors ce n'est pas forcément lié à un pays tout entier, ça dépend vraiment des ethnies.
Et des régions d'origine.
Oui. Et des régions d'origine, ce n'est pas un ensemble.
94% des femmes sont excisées dans la région de Kolda, alors qu'on est à moyenne nationale à 28% au Sénégal.
Exactement.
Donc il y a une très très grosse différence.
Dans la région de Durbel, vous êtes à peine à 1%, donc on est vraiment...
Pourquoi d'ailleurs?
La dame Awa disait à très juste titre qu'il y a des ethnies plus conservatrices que d'autres. Et je pense que dans certaines zones du Sénégal, notamment à l'est et au sud, on est dans des zones beaucoup plus conservatrices, ou dans la région du fleuve, on est dans des zones plus conservatrices. En plus, c'est des zones qui peuvent être à proximité, par exemple, du Mali, où le taux d'excision peut être un peu plus élevé, ou à proximité de la Guinée, où le taux d'excision est extrêmement élevé aussi. Donc le fait aussi d'être frontalier ou frontalière d'une zone peut aussi jouer sur les
chiffres. C'est ça. Awa, vous avez grandi, je crois, dans un milieu rural. Où est-ce que vous avez grandi? Dans quelle région?
Dans la région de Kolda, c'est au sud du Sénégal.
Oui, c'est ça. Donc justement, une région où il y a un pourcentage extrêmement élevé de femmes excisées, bien plus élevé que la moyenne nationale. Aujourd'hui, vous vivez à Dakar, au Sénégal. Vous êtes engagée d'ailleurs dans une association, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, depuis plusieurs années. Vous avez le sentiment que dans une grande ville comme Dakar, les petites filles sont davantage protégées par une culture de l'urbanisation? Ou pas?
Ben oui, c'est une culture de l'urbanisation. Mais je sais que ce que je voudrais que vous compreniez, puisqu'on parle, il faut d'abord aller de la base au sommet. C'est-à-dire le fait que ces filles soient protégées par ces politiques d'urbanisation et que l'excision est pratiquée dans les zones rurales. Donc il faudrait mettre l'accent sur les victimes et les acteurs culturels afin de pouvoir éradiquer ce phénomène.
Ouais, les chefs de communauté notamment. Merci Awa de nous avoir appelés. On va donner la parole à nos invités. Je vous en prie,
oui,
Linda Veil-Curiel.
Je voulais simplement rappeler que la tradition voulait, me semble-t-il, il y a quelques dizaines d'années, que l'on excise les gamines au moment où elles se formaient. Elles devenaient formées avec la poitrine qui grandissait, etc. Or maintenant, c'est fait sur des bébés. Alors, respect de la tradition, je mets un gros point d'interrogation. Je pense qu'il y a là une stratégie d'évitement pour que les enfants ne s'enfuient pas, parce que les enfants sont informés maintenant, bien mieux qu'auparavant, et c'est une stratégie des parents qui me paraît montrer qu'ils ne sont pas prêts du tout à abandonner cette pratique.
Est-ce que globalement, Alimata, Fofana, oui.
Je vais juste ajouter aussi, ce qu'il faut comprendre dans cette pratique de l'excision, vous savez, quand on excise une petite fille, quand vous discutez avec des mères de famille, elles vont vous dire qu'on le fait pour le bien de la petite fille. Je ne dis pas que j'approuve cela. Je dis juste que quand vous discutez avec les mères, elles pensent le faire pour le bien, certes, elles se trompent. Et par l'acte de l'excision, il y a une manière de montrer que cette petite appartient au groupe. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, je pense. Et quand vous parliez d'urbanisation, on est quand même en région parisienne et il y a des petites filles qui sont excisées ici en France. À New York, c'est pareil, ou ailleurs dans le monde. Et que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que moi, je parle par rapport à nos parents quand ils quittent l'Afrique et qu'ils arrivent en Europe ou arrivent en Occident de manière générale, c'est comme s'ils perdaient leur identité. Ils perdent ce sur quoi ils se sont construits. Chez eux, ils ont une identité, ils ont une place dans le groupe qui leur est attribué. Quand ils arrivent en France, on entend migrants, immigrés, ça devient un groupe homogène. Et le seul endroit qui leur reste pour exister, à part entière, c'est dans le logement familial.
Vous le dites d'ailleurs, ma mère voulait qu'on parle notre langue et pas le français à la maison. La première crainte de mes parents, c'était que l'on rompe avec la tradition. Ma mère prenait en exemple les familles maghrébines du quartier. On interdise aux enfants de parler français à la maison. Le chemin est beaucoup plus ardu pour ces enfants français, nés de parents venus d'ailleurs. Moi, j'ai mené deux combats simultanés, l'un au sein du foyer familial et l'autre à l'extérieur.
Exactement.
L'excision était le pilier de cette tradition.
Je ne pourrais pas dire le pilier, parce que je dirais que c'est tout un environnement. C'est-à-dire que l'excision est possible quand il y a un environnement qui est propice. Et je ne crois pas qu'on puisse dissocier les deux. Certes, il y a la question d'excision, mais il y a aussi la question d'éducation. Qu'est-ce qu'on nous a mis dans nos têtes depuis que nous sommes petites filles? Ce qui primait pour nous, c'était malgré le fait qu'on soit en France, c'était le fait de se marier et d'avoir des enfants.
Oui, mais... Vous avez 35 ans, Alimata Fofana.
Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant.
C'est vous qui le précisez. C'était donc il y a 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites « mes parents vivaient physiquement en France, mais à l'intérieur du foyer, nous étions encore au pays », est-ce qu'aujourd'hui, dans votre entourage, dans votre cercle familial, il y a encore des familles qui élèvent leurs enfants, comme dans un village du Sahel, en région parisienne, tout en les envoyant dans un collège en France?
Mais bien sûr. Bien sûr. En plus, moi, j'ai aussi enseigné dans des REP ou REP+, dans des zones d'éducation prioritaire. Oui, bien sûr, nous avons des familles qui sont... c'est comme s'ils étaient coupés de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes qui vivent l'un à côté de l'autre. Et pour les enfants, c'est très, très compliqué d'être parfois déchiré entre ces deux mondes. C'est ce que je dis souvent.
Alors, Linda Velcuriel, les familles sont-elles informées de ce que dit la loi en France sur les pratiques de mutilation génitale ?
Et sexuelle, parce que c'est la sexualité de la femme qui est visée. Il y a plus de 30 ans que l'information est donnée par les PMI.
C'est probablement de protection maternelle inégal. Et infantile. Hein.
Oui, les protections maternelles
qui suivent
et infantiles.
Les enfants jusqu'à
l'âge de 6 ans.
C'est ça. Ensuite,
La prévention est probablement inégale en fonction des territoires, mais réellement, on avait fourni un effort considérable. Et il n'a pas été réellement, peut-être pas suffisamment poursuivi, parce que les médecins et les centres de protection maternelle et infantile sont complètement débordés, comme toutes les institutions, mais... Ça a été fait depuis les années... Écoutez, le premier texte de la PMI, c'est de 83.
Est-ce qu'on peut
à
redire
la suite de
Gosset. Est-ce qu'on peut dire exactement ce que dit la loi aujourd'hui en France? Il n'y a pas de texte spécifique sur l'excision.
Non, il n'y a pas de loi spécifique sur l'excision. Et moi, je m'y suis opposée lorsque j'ai été interrogée dans le cadre d'un groupe de travail organisé par Yvette Roudy, qui était ministre du droit des femmes. En début 83, parce qu'en 82, il y a eu deux affaires d'excision qui ont été connues du public. Une à la suite de la mort d'un bébé de 3 mois et demi, Bobo Traoré, et l'autre parce qu'un médecin a sauvé la vie d'une petite fille qui a été excisée également. Et là, on s'est posé la question, comment prévenir pour empêcher que cela se reproduise, et faut-il légiférer? Et je me suis opposée à une loi en disant, mais la loi française, elle s'applique à tout le monde de manière égale sur le territoire français. On ne va pas prendre un texte spécifique qui, si vous voulez, serait à une sorte de doigt accusateur pointé vers... les Africains qui se sont installés sur le territoire français.
Donc c'est le code pénal.
C'est le code pénal.
Qui dit ?
Qui sanctionne les mutilations et encore plus gravement...
Quelles qu'elles soient.
et encore plus gravement lorsqu'il s'agit de mineurs et puis qu'il y a une sorte, et avec usage d'une arme.
Ça permet de poursuivre pénalement les parents, de poursuivre pénalement les exciseuses. Cela concerne des enfants de nationalité française, y compris pour des actes commis hors de France, ou pas ?
Oui, mais pas seulement, parce que la loi a été modifiée. Les enfants qui ont leur résidence principale en France avant d'être français sont également protégés par la loi de 2006.
Isabelle Gillette-Faye, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Parce que Linda Veil-Curiel citait des procès qui ont eu lieu dans les années 80. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Au-delà.
Aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on commence, enfin, notamment c'est l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui étudie un peu sur le plan quantitatif, j'ai envie de dire, le nombre de personnes concernées en France. J'ai envie de dire, si on est autour effectivement de 60 000 femmes résidant en France qui ont subi la pratique, on sait qu'elles ont 11% de leurs filles qui sont excisées. Donc ça représente quand même une petite fille sur 10 de mère ayant subi elle-même une mutilation sexuelle féminine et 30% d'enfants encore menacés. Donc ça veut dire qu'on a encore 3 fillettes sur 10 qui sont potentiellement concernées par l'excision. Mais si on additionne ces 11% et ces 30% d'enfants encore à risque, ça veut dire qu'on a 60% des filles qui sont protégées. C'est-à-dire que les parents profitent du fait d'être sur le territoire français pour dire on ne va pas exciser notre enfant. Donc oui, il y a très probablement il y a encore des enfants en danger, il faut être très attentif, il ne faut pas baisser notre garde, comme l'a dit justement Linda Veil-Curiel, il faut continuer ce travail de prévention et de sensibilisation. Il ne faut pas imaginer que c'est derrière nous. Et Ali Matin en témoigne très très bien en disant voilà, c'est une réalité des enfants que j'ai pu rencontrer à l'école ou ailleurs, ou des familles que je peux être amenée à voir. Donc il y a encore une réalité qui montre que c'est encore un danger potentiel pour un grand nombre d'enfants. Donc il faut être très attentif, mais en même temps noter qu'il y a des signes assez encourageants. Mais je pense que les procès, comme la sensibilisation, jouent un très très grand rôle pour faire reculer les pratiques. Ouais. Si on compare avec les autres pays européens qui ont adopté des lois beaucoup plus tardivement, qui n'ont pas été jusqu'au procès, comme nous, on voit très très bien que les chiffres ne sont pas du tout encourageants et que ça reste complètement stable. Il n'y a qu'en France, on voit cette évolution.
C'est grâce au procès aussi. Ouais.
Oui, oui. Alors, je voudrais justement ajouter à ce propos que lorsque je plaide, je m'adresse aux parents parce que je suis fâchée. Et je leur dis, vous avez pris la responsabilité de mettre des enfants au monde ici, en France, où ils recevront une autre éducation que celle que vous avez reçue. Alors, s'il vous plaît, ne regardez pas l'avenir de vos enfants avec le regard tourné vers votre passé. Donc, laissez les enfants libres de grandir.
Ali Mata Fofana, je voudrais que vous expliquiez aux auditeurs, parce que hors antenne, vous m'avez dit, mais non, en fait, les familles ne comprennent pas très très bien forcément ce que signifie l'excision. Est-ce que vous pouvez, puisque votre récit est articulé autour de cela, mais pas seulement.
Non, pas seulement.
Quelle enfance avez-vous eue à la suite de l'excision, et quelle jeunesse aussi ?
À la suite de l'excision, je dirais, quand je me suis couchée sur l'espèce de pagne là, où il y avait plein de sang déjà, j'ai subi cette amputation, quand je me suis relevée, je n'étais plus une enfant. À l'âge de 5 ans, c'est une adulte qui se lève. Et donc, moi, je comprends très rapidement qu'il va falloir se battre pour sortir de là. Et moi, je dis souvent on me dit, mais comment t'as fait pour grandir malgré tout ? Je dis, moi, j'ai grandi avec autour de moi que des contre-exemples. Et donc, j'ai pris la tangente et j'ai fait l'inverse. Et j'ai compris, pas trop tard, que le seul moyen de m'en sortir, c'était l'école. Et que j'avais ça à portée de main. Et donc, je me suis battue là-dedans. Au niveau de ma jeunesse, je dirais que la question de l'excision, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est vraiment gravé dans ma mémoire.
Vous la décrivez avec une précision absolument chirurgicale et inouïe.
Ah, ouais, c'est parce que vraiment c'est gravé dans ma mémoire. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est ça existe, certes, je mets ça de côté. Et donc c'est vrai que moi, quand j'allais à l'école, parce que moi j'ai aussi beaucoup beaucoup lu. Je pense que c'est aussi la lecture qui m'a permis de m'extirper du monde dans lequel j'étais. La lecture m'a permis de comprendre et de voir que la nature humaine était capable d'offrir de très belles choses.
Et vous restez avec nous, Ali Mata Fofana, Linda Veil-Curiel et Isabelle Gillette-Faye. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash. Et bien sûr, vous nous appelez, les voisins, les voisines. On parle de l'excision. 33 1 84 22 71 60.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins et de voisines à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. On en discute avec vous, Alimata Fofana, à la lumière de votre récit publié chez Cartala, Mariama, l'écorchée vive. Vous nous disiez en première partie d'émission, avec beaucoup de pudeur d'ailleurs, à quel point l'excision, mais pas seulement l'excision dont vous avez été victime à l'âge de 5 ans, en vacances au Sénégal, parce que vous êtes française, née en France, grandie en France, éduquée dans les écoles de la République, de parents sénégalais. Comme vous nous expliquiez comment l'excision, bien sûr, était au centre de toute une éducation, mais ce n'était pas seulement cela qui a constitué le carcan, en fait, hein, d'une éducation africaine en France, coupée des réalités du pays dans lequel vous grandissiez, la France, c'est-à-dire avec la pression au mariage, notamment.
Hein. La pression au mariage qui est très, très importante.
Permanente,
même c'est très récurrent
au Sénégal, d'autant
plus. C'est très récurrent dans mon livre. Et pas qu'à chaque séjour au Sénégal, c'est aussi ici, dans les familles, on cherche à caser la jeune fille, la fille, parce qu'il faut. On ne se marie pas pour soi, on se marie pour consolider les liens familiaux.
Vous avez dit en première partie d'émission, Alimata Fofana, que vous aviez 35 ans et que vous étiez toujours célibataire.
Ouais.
Est-ce que l'excision dont vous avez été victime, vous avez décidé d'ailleurs de subir une opération chirurgicale de reconstruction, vous racontez dans votre livre à quel point finalement ça avait été quelque part aussi un peu une illusion et que ça n'avait pas réglé tous les problèmes.
Non, ça n'a pas réglé.
Est-ce que l'excision est liée à votre célibat aujourd'hui ?
Non, on peut pas dire ça.
Je vous pose la question.
Je ne crois pas que ce soit forcément lié à mon célibat, le fait que j'ai subi ou non une excision. Après, je pense que c'est plus le rapport homme-femme, la manière dont on vous a éduqué. Quand on passe son temps à vous dire que l'homme c'est l'ennemi. Et que vous pouvez avoir une relation avec lui uniquement si c'est votre frère ou votre mari, sinon il n'y a pas de lien. Il y a une scène très forte dans le livre que je décris de cette jeune fille, Mariama, on la surprend en train de discuter avec un garçon.
C'est un peu vous, hein, quand même.
Si vous le dites. Elle discute avec un garçon et son père la surprend en train de discuter. Et il y a les foudres du père qui s'abat contre cette jeune fille. Et donc, quasiment un échange, sans aucun problème, peut engendrer quand même des conséquences assez terribles. Et c'est là la difficulté. Et aussi ce que les mères transmettent à leurs filles. Qu'est-ce que ces mères ? Certes, il y a la question de l'excision, mais il n'y a pas que ça. Parce que souvent, ce sont aussi des mères qui se sont mariées, mais souvent, ce sont des mariages arrangés. Elles ne connaissent que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré leur souffrance, parce que moi, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui ne sont pas bien dans leur mariage, comme vous dites.
C'est le cas d'une partie de vos cousines, je pense.
Pas que, je pense que ça va au-delà de mes cousines, ça va au-delà des gens que... depuis que mon livre est paru, je reçois énormément de messages de femmes qui se confient à moi, qui ont, pour certaines, accepté le mariage pour fuir un foyer familial trop contraignant. Il y a aussi cette réalité-là, c'est une manière de fuir, et aussi, quand ces jeunes filles se battent, elles essaient de faire des études, c'est pas facile parce qu'à la maison on leur interdit certaines choses, à l'extérieur elles se battent. Et à l'extérieur on passe son temps à leur renvoyer à leur couleur de peau. Que font ces jeunes femmes à votre avis ? Est-ce qu'elles vont continuer et perdre ? Il y en a qui renoncent et qui se disent peut-être mieux vaut se soumettre à la tradition. Et c'est un des gros problèmes, je pense.
On en discute avec vous également, Isabelle Gillette-Faye. Vous êtes directrice du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et mariages forcés, le GAM. C'est Linda Veil-Curiel, avocate au barreau de Paris. Vous travaillez notamment avec la commission pour l'abolition des mutilations sexuelles, notamment dans des procès en justice, puisque la loi en France condamne, on le disait en première partie, le code pénal condamne toute pratique d'excision, y compris si c'est commis d'ailleurs à l'extérieur du territoire français concernant des mineurs qui ont la nationalité française. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On va donner aussi la parole aux hommes parce que vous dites beaucoup dans votre livre, Alimata Fofana, que les hommes ne se sentent pas concernés par ce problème de l'excision. Mmh. Seydou, vous nous appelez d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Seydou.
Oui, bonjour madame.
Vous avez 35 ans, on vous écoute.
Oui, justement, j'ai vu le thème et ça m'a beaucoup marqué, donc j'ai laissé mon avis. Parce que cette histoire d'excision, selon moi, c'est tout un réseau de trafiquants en fait. Parce que actuellement, la tradition est pensée, l'excision n'existe plus dans nos traditions actuelles. Voilà, donc
que voulez-vous dire ? Je ne comprends pas, c'est d'où ?
Pour tout simplement dire que actuellement l'excision, si ça perdure, c'est que ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique-là le font actuellement pour d'autres intérêts, c'est-à-dire ce n'est pas dans le cadre de la tradition.
Donc vous voulez parler d'un trafic d'organes mutilés, c'est bien cela, parce que la tradition, elle perdure en Côte d'Ivoire. Hein. Les chiffres sont là pour le dire, 38% des femmes de 15 à 45 ans ont été excisées. Chiffre de l'UNICEF un tout petit peu plus bas que les chiffres gouvernementaux, 36%. D'ailleurs, donc le gouvernement ivoirien ne ferme absolument pas les yeux sur cette réalité-là. Hein. L'excision est bien, bien présente en Côte d'Ivoire et même plus importante qu'au Sénégal. Vous faites allusion à un trafic d'organes mutilés, c'est bien cela, Seydou ? Soyez clair, oui, s'il vous plaît, venez-en au fait.
Ok. Actuellement, c'est ce qui se passe dans le monde actuel. Et même, il n'y avait pas parti loin. Dans le domaine de la cybercriminalité, par exemple, il y a ces jeunes garçons qui s'abonnent à ce genre de pratique-là. Parce que les gens d'organes sont utilisés, ils vont avec ce genre d'organes chez soit les marabouts,
c'est du maraboutage.
Voilà. Vous vous exprimez au micro directement, Ali Matafoufana.
Je pense que monsieur parle du maraboutage.
C'est ça,
à travers.
Utiliser ses organes mutilés pour sous forme de gris-gris.
Oui,
c'est bien
ça,
cela,
mais il n'y a pas que ça. Il y a les cheveux, il y a un peu. C'est un peu tout.
Tous les organes, tous les cheveux, les peaux, les ongles. Enfin, tout peut servir effectivement dans ce qui est pratique de sorcellerie ou pratique magico-religieuse, pas uniquement liée au marabout.
Quelle est la réalité de ces pratiques ? Est-ce que ça
Je crois pas que ce soit important.
Non, au Burkina. Voilà, récemment, il y a 2 ans, je crois, au Burkina Faso, ça avait fait la une de tous les journaux parce qu'effectivement, un homme avait été arrêté avec des clitoris dans un espèce de sachet et il en faisait effectivement commerce. Enfin, je veux dire, voilà. Après, à partir de là, je pense qu'on peut faire commerce de tout, effectivement, et qu'il y a des pratiques magiques.
Ça n'est pas central dans les raisons qui expliquent que l'excision perdure, selon
vous. Non, pas du tout, parce que selon les rites où vous vous trouvez, il va falloir enterrer les clitoris. Au contraire, dans d'autres endroits, il est inenvisageable de les consommer. Enfin, je veux dire, après, vous avez, selon la zone villageoise dans laquelle vous êtes, la communauté auquel vous vous référez, enfin, l'anthropologie, l'ethnologie a publié énormément de textes sur le sujet, mais ce n'est absolument pas essentiel.
Lamine nous appelle de Conakry au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Lamine.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un jeune Guinéen, vous avez 21 ans et vous souhaitez parler de la nouvelle façon de faire de la prévention en Guinée. Je rappelle que la Guinée est l'un des pays où l'on excise le plus les femmes au monde, juste derrière la Somalie. Vous venez de ce pays, vous vivez dans ce pays. Comment vous voyez les choses, Lamine, vous en tant que jeune garçon ?
Alors, en tant que jeune garçon, la mutilation génitale perdure jusqu'à présent en Guinée, ce parce que le cadre légal qui est là n'est pas mis en application. En fait, nous avons des lois qui condamnent les mutilations génitales féminines, mais ces lois-là ne sont pas appliquées. Elles ne sont même pas connues. Donc, il faut les vulgariser. Mais aussi, dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, je crois qu'il est important, d'ailleurs plus qu'important, de passer par l'audiovisuel pour véhiculer les messages. Il y a une ONG de la place qu'on appelle la plateforme de plaidoyer, de recherche et de renforcement des capacités des ONG, PRONG. Ils ont fait un film très intéressant sur l'excision, qu'on appelle le séjour tragique, le mal des cultures. Ouais. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur YouTube. Ouais.
Comment vous avez reçu ce film, justement ? Puisque beaucoup d'hommes disent « on n'est pas concerné, ce sont les femmes qui décident, ce sont les femmes qui excisent et ce sont les femmes qui subissent. »
C'est faux. Moi, je vous garantis.
Moi, je vous dis que l'excision, c'est l'affaire de tous parce que ça a des conséquences néfastes. Pour la petite histoire, moi, j'ai rencontré Prong au mois de décembre dernier dans le cadre des séjours d'activisme. Ils avaient mobilisé plusieurs journalistes pour participer à un atelier dans le cadre de la mise en place des communautés de pratique, dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines et bâtir le pont entre les cultures.
Oui.
Et voilà, c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. Ils m'ont parlé du film qu'ils ont fait et également des activités qu'ils mènent dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines.
Mais Lamine, vous avez 2 grandes sœurs qui ont été excisées, c'est bien cela ?
Ah oui.
Et qu'en est-il pour vos 4 petites sœurs qui ont moins de 9 ans, je crois ?
Alors, pour mes 4 petites sœurs, la dernière fois que j'ai échangé par rapport à la thématique avec mon père, il m'a promis de faire une stimulation pour ces filles-là, de ne pas les exciser en tant que telles, mais de simuler parce que...
De simuler ?
Ah oui, de stimuler l'excision.
C'est ça, c'est-à-dire d'organiser quoi au juste ?
De faire voilà. semblant
De les envoyer à l'hôpital, de blesser ne serait-ce que simplement le clitoris, les renvoyer à la maison, qu'elles s'habillent en fonction de nos cultures et qu'elles restent là pendant un petit bout de temps. Et puis voilà, parce que chez les Peuls, si vous ne le faites pas, c'est pas bon.
Ça veut dire que votre père, chef de famille, ne peut pas interdire cette pratique de manière claire dans
aller
sa
à l'encontre du groupe. Le père ne n'ose pas.
S'imposer tout à fait, oui, il ne peut pas le faire, mais simuler, il fait, et là, ça protège ses filles.
Ça se fait, ces pratiques de simulation, c'est réaliste ou pas ?
C'est réaliste, c'est de plus en plus fréquent.
Ouais. Oui, Isabelle Gillette-Faye ?
Oui, c'est de plus en plus fréquent, mais par contre, pour accueillir des femmes depuis maintenant plus de 30 ans, on a des femmes qui ont subi cette soi-disant simulation, donc qui va être la coupure, par exemple, du prépuce qui entoure le gland du clitoris, et certaines sont aussi traumatisées, voire plus traumatisées que des femmes qui, par exemple, ont subi une grande infibulation avec suture de la vulve. Donc, ça dépend aussi de l'étayage qu'il y a autour. Alimata Fofana, depuis le début, elle insiste sur le fait qu'il y a son excision, mais il y a eu toute l'éducation qu'il y a eu autour, toutes les contraintes à laquelle elle a été... pour lequel elle s'est sentie enfermée, opprimée. Et je pense qu'une petite fille qui subit certes une simulation, mais qui après va cumuler un certain nombre de maltraitances, va cumuler un certain nombre d'interdits, une certaine relation aux hommes, etc., au final va pouvoir avoir les mêmes difficultés ou rencontrer les mêmes traumatismes qu'une autre jeune fille. Donc on est très très prudent en ce qui nous concerne sur le fait de faire cette excision simulée. Ou dites symbolique.
Moi, je disais tout à l'heure concernant.
Vous pouvez vous adresser à Lamine, il est toujours en ligne avec
nous. À Lamine, quand il disait par rapport aux hommes, moi, je vous garantis, moi, ça s'est passé quand j'étais en vacances là-bas. Moi, mon père était en France, il avait dit de Paris, hein, vous ne touchez pas à ma fille, personne ne m'aurait touché. Que ça soit clair. Et donc, quand les hommes disent, ah, mais non, c'est une histoire de femme, c'est faux. Ils savent très bien, attendez, quand ils se marient avec ces femmes-là et qu'ils ont des soucis avec les femmes, parce que pour elles, moi j'ai rencontré des femmes comme ça, qui fuient les relations sexuelles, qui disent, bah, pour elles, c'est une torture. Et il ne se pose pas de questions, l'homme ne se pose pas de questions. Et après, quand ils ont des enfants, quand ils ont des filles, pourquoi n'osent-ils pas s'imposer ? Parce qu'il y a aussi une crainte, il y a la peur, comme tu dis Linda, il y a les qu'en dira-t-on ? Ils ont trop peur, comme dirait Victor Hugo, des bouches qui parlent. Et ça, ça prend le dessus sur la santé de la petite fille. Moi, il y a des discussions que j'ai écrites dans mon livre avec des cousins et je leur posais la question à savoir, bah, quand tu auras une petite fille, est-ce que tu vas aller à l'encontre de ta famille si ta mère te dit, bah, on va exciser la petite ? Il me dit, ah bah non.
Ma mère décidera.
C'est ma mère qui décidera. Ah mais attends, tu me parles de la circoncision pour les filles ? Ah non, non, je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle d'excision. C'est deux choses distinctes. C'est deux choses distinctes. C'est trop facile là-bas.
La circoncision n'est pas passible du code pénal. Hein,
non, dans aucun pays. Non, mais surtout qu'il y a parfois des gens qui font la confusion entre les deux.
Je dis, attendez que je m'en mêle. Parce que c'est une blessure également qui est infligée au sexe du garçon. Et ça n'est pas du tout anodin. J'ai reçu beaucoup de plaintes de jeunes hommes qui souffraient beaucoup de leur circoncision. Ouais.
Alors bon, ça c'est peut-être un autre sujet.
Qu'il
en discuter aussi.
Que les hommes s'occupent de leur
néanmoins, Lamine, vous avez 21 ans, vous n'êtes pas mariée.
Ah non, je suis pas mariée, je suis très jeune encore.
Pour un garçon, c'est très jeune. Pour une fille, on dirait, là, va falloir vraiment que tu y ailles. Hein.
Lamine, comment vous envisagez le choix d'une partenaire par rapport à cette pratique ? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte pour vous ou pas ?
Alors, dans le choix de mes partenaires, franchement, ça rentre pas en compte parce que souvent, on n'en parle pas. Quand les filles subissent les mutilations génitales féminines, elles ne vous disent pas que moi, je suis excisée. Non. Alors, on sait que la majeure partie des filles d'ici sont excisées. Alors, franchement, je ne calcule pas ça quand je sors avec une fille.
Et aussi, dans cette pratique de l'excision, vous savez, il y a 10 ans, si on s'était vu, je vous aurais dit non, je n'ai pas subi une excision. Pourquoi ? Parce que j'avais terriblement honte. J'avais honte d'être associée à cet acte. Pour moi, je parle acte de barbarie, et je le dis. Pour moi, c'est un acte de barbarie. Et je voulais savoir, est-ce qu'il a eu déjà des petites copines
Lamine.
Oui.
Alimata vous pose une question.
Vous avez déjà eu des petites copines?
Ah oui, j'en ai eu.
Oui, et comment ça se passe? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'échanger avec elles sur cette question-là?
J'échange beaucoup plus avec mes amis de classe et mes amis qui s'investissent dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines.
Donc des amis qui ne sont pas des partenaires. En fait, vous échangez avec des copines qui ne sont pas des partenaires sexuels, si j'ai bien compris.
Oui.
C'est ça.
Et... Ouais. La dernière fois, j'ai rencontré une fille qui m'a clairement dit qu'elle est allée dans son village. Elle a été stigmatisée parce qu'elle est un peu forestière. Et elle me disait qu'elle a vraiment eu très peur là-bas, mais voilà, elle n'a pas pu échapper à la pratique. Et c'était terrible.
Ouais. Elle vous a raconté dans quelles conditions elle avait été excisée, donc.
Ah oui.
Mais donc, relativement âgée, alors, à l'adolescence?
Elle était très jeune, elle devait avoir encore 8 ou 9 ans.
Ah, d'accord.
Jeune, pas si jeune que ça, 8-9 ans.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Lamine. Vous continuez de nous téléphoner 33 1 84 22 71 71. On parle de l'excision aujourd'hui chez 7 milliards de voisins.
Exciser, c'est pas bon. Oh, yo, yo. Exciser, c'est mutiler. Arrêtez de mutiler.
Exciser, c'est pas bon.
Oh, yo, yo. Exciser, c'est mutiler. La maille, mon seul camp. Farafina, mon seul camp. La daïe, le camp. La daïe, mon seul camp. Si qui n'a pas encore mis en lié. Aïe, y'a fanema. Oh, ma idée. Noye, ma suivaye. Moussomani. La mea la sunando te uyala wa kichi ama fa musomani bolo kako
C'est Baffin Cool, et vous reconnaissez les textes évidemment qui traitent du sujet. Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins. Linda Velcuriel, je crois que c'est vous qui avez produit cette chanson.
C'est cela, ouais. En 2004. Ouais,
parce que c'est vrai aussi que par la musique, on peut parfois sensibiliser. Mmh. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à un voisin qui nous appelle de région parisienne, c'est bien ça Madou,
oui.
Madou, vous avez 50 ans, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Tout à fait, bonjour, bonjour.
Vous êtes en direct et vous avez la parole.
Voilà, bonjour, je vous remercie. Bon, j'écoute votre émission depuis le début, mais je crois que j'ai déjà écouté un certain nombre d'émissions sur le même thème, venant toujours des RFI. Bon, j'ai le net sentiment que c'est une véritable charge, un procès contre les civilisations négro-africaines. Dans tout ce que j'ai entendu, bon, je crois qu'il y a un parti pris évident. C'est libre à chacun d'être pour ou contre. Ça, je le conteste pas. Mais faut-il encore, dans une radio telle que RFI, vous adresser à l'ensemble de la francophonie et à l'ensemble de 200 millions d'auditeurs. Donc, leur expliquer dès le départ le pourquoi, le fondement religieux. Bah, si je dis religieux, spirituel et religieux, et fondements sociaux, justement, de ces pratiques.
Alors, rappelez-nous en quelques mots, puisque vous voyez, vous avez tout à fait la parole et vous êtes le bienvenu chez 7 milliards de voisins, Madou.
Une raison. Laquelle? Alors, il faut nous le dire. Bon, il faut avoir, je pense qu'il faut absolument donner les deux faces du même problème, et non pas de façon unilatérale. Parce que j'ai le sentiment, les populations conservatrices, les populations arriérées...
On n'a pas utilisé ce terme, on n'a pas parlé d'arriéré. Hein.
C'est un mot qu'on n'a jamais prononcé, mais dites-nous.
Est-ce que je peux lui poser une question?
Oui, mais bien sûr.
Quel est le bénéfice que vous voyez à l'excision?
Quel est le fondement spirituel?
Le bénéfice. J'ai dit le bénéfice.
L'excision n'existe pas, madame.
Oui.
Est-ce que vous connaissez les termes qui sont utilisés dans nos langues pour désigner l'excision? Langues africaines.
Nous en connaissons, mais je ne ferai pas étalage de mes connaissances.
Hein?
Allez-y, Madou, poursuivez, il nous reste quelques minutes.
Voilà. Alors, il n'y a pas de différence entre l'excision et la circoncision.
Ah, c'est ce que je dis.
Ça, c'est des termes génériques européens. Chez nous, ça n'existe pas. C'est le même terme pour l'homme et la femme. Parce que ce n'est pas du tout, comme je l'ai entendu, le patriarcat qui s'exerce sur les femmes, qui voudrait faire des femmes des objets sexuels.
Mais
ce n'est pas vrai.
Vous dites ça, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai que moi, j'ai
non,
quand même...
ce n'est pas vrai, madame.
Mais je pense avoir une légitimité, comme je l'ai subi à l'âge de 5 ans et que j'en ai beaucoup souffert. Vous imaginez bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand je décris...
Il faut préciser, Alimata Fofana, vous avez longtemps souffert de l'incontinence urinaire pendant toute votre enfance.
Oui, mais
l'acte
de l'excision, c'est un acte très violent. C'est fait sans anesthésie, parfois à même le sol, sur un pagne plein de sang, avec un couteau, une lame de rasoir et un tesson de bouteille, et on essaie de philosopher là-dessus. Et ce que dit monsieur, ce que je trouve grave dans ce que dit monsieur, c'est que ce que vous faites, ça s'appelle, vous réduisez la culture africaine à un acte. C'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur. Vous réduisez la culture africaine à un acte, moi je le dis, qui est barbare. Il y a des petites filles qui meurent de cela.
Certainement, c'est cette population qui vous a civilisé, madame.
Mais
je ne vous autorise pas à traiter les peuples africains de barbares.
J'ai pas dit les peuples africains, j'ai dit l'acte est barbare. Et je le maintiens.
L'acte n'est pas barbare. L'acte n'est pas pratiqué par une population déterminée. Donc, quand vous dites
l'acte est barbare, oser prendre et aller dans ce qu'il y a de plus intime chez un individu et prendre un couteau, c'est de la barbarie. Comment vous voulez appeler ça,
Madou?
Mais là, vous, ce que vous faites, vous êtes dans un combat d'arrière-garde. Vous essayez de... En plus, vos propos ne tiennent pas avec moi. Moi, je suis aussi noire que vous.
Non, vos propos non plus ne tiennent pas avec moi. C'est là vous dites.
Oui. Non, mais parce que vous n'avez pas connu dans votre propre corps.
Qu'on a bien compris.
Le pourquoi de l'excision.
Il n'y a aucune légitimité à cet acte.
Merci, Madou, de nous avoir appelé. En tout cas, je crois qu'on a bien compris vos propos. En face de vous, il y a finalement la brutalité d'un témoignage, celui d'Alimata Fofana, et une très grande souffrance physique et psychique qu'il est difficile de nier. Isabelle Gillette-Faye, est-ce que j'allais vous demander en début d'émission, est-ce qu'on est en train de sortir du piège de l'alibi culturel pour donner raison à l'universalité de la souffrance physique et mentale qui est la même pour tout être humain, où on n'en sort toujours pas finalement à la lumière de l'appel de Madou, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir appelé parce que je crois que c'est important aussi qu'il ait la parole.
Oui, bien, je pense qu'évidemment que tous les points de vue doivent s'exprimer. Et maintenant, il faut réfléchir aux conséquences que ça peut avoir, et quand on écoute le témoignage d'Alimata Fofana, je pense que ça peut remettre en question les perspectives des uns et des autres. Mais pour en revenir au sujet du relatif culturel, oui, il y a une très nette évolution, parce que comme nous, ça fait plus de 40, bientôt presque 40 ans qu'on est sur le terrain. On voit bien qu'il y a une évolution au niveau des professionnels. Il y a moins de relativisme culturel que par le passé. Par contre, on observe des mouvements identitaires qui actuellement sont en train de revendiquer, comme exactement pour reprendre le discours que l'auditeur vient de tenir, qui revendiquent une identité africaine, et leur identité africaine passerait notamment par le maintien et la perpétuation des mutilations sexuelles féminines.
Contre une domination occidentale. Hein, c'est
contre la domination. Donc on est en train d'instrumentaliser pour des raisons dites politique, c'est ce qui s'est passé au Kenya. C'est-à-dire, par exemple, Jomo Kenyatta est arrivé au pouvoir au Kenya parce qu'en tant que Kikuyu, il a revendiqué son identité qui passait par l'excision des femmes. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un discours qui a tendance à banaliser les souffrances que l'excision peut occasionner, à balayer d'un revers de la main le fait qu'il y a des femmes qui peuvent en mourir et des enfants qui en meurent tous les jours. Et de ce fait-là...
Et en tout cas, qui en souffrent toute une vie.
Et qui en souffrent toute une vie. Ce qui n'est pas une fatalité non plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Il y a des femmes qui sont résilientes. Il y a des femmes qui s'en sortent très très bien. Il y a des femmes qui acceptent parfaitement le fait d'avoir vécu ça. Mais ce n'est pas parce qu'un petit nombre de femmes sont à l'aise avec ça ou l'ont dépassé qu'il faut continuer la pratique.
Alimata Fofana, quand vous entendez un jeune garçon comme Lamine à Conakry de 21 ans appeler, en discuter de manière extrêmement calme et rationnelle et ouverte, est-ce que vous vous dites qu'avec la nouvelle génération qui arrive, les choses vont peut-être changer ? Vous qui êtes, vous avez vécu d'ailleurs au Sénégal, hein, vous avez grandi en France, mais vous avez vécu au Sénégal, vous n'êtes pas déconnecté du tout
du pays, et je parle de
vos origines.
Non, et en plus je parle couramment le dialecte de mes parents, ça montre bien quand même que je suis imprégnée et que j'ai grandi, que j'y retourne assez régulièrement. Est-ce qu'il y a une évolution ? Je pense que pour certains, oui. ceux qui ont eu accès à l'école. Moi, je me rends compte même, parce que moi, je vais, quand je pars là-bas, je vais aussi dans les villages, en Mauritanie, au Sénégal. Et quand je discute avec les mères de famille, je me rends compte que quand elles ont accès à l'école, il y a un changement des comportements. Ça, c'est frappant. Elles commencent à réfléchir, à remettre en cause, à se poser des questions sur des pratiques. Ça, c'est vraiment très, très fort. Alors, au niveau des hommes, il y en a certains, oui. Surtout pour la génération suivante, ils pensent à leurs filles, ils pensent, mais je ne pourrais pas généraliser. Sur cette question-là, je ne pourrais pas généraliser. Je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Isabelle concernant la résilience. Moi, je pense aussi qu'il est important, comme tu disais précédemment, qu'on se dise qu'il n'y a pas de fatalité. Et que moi, dans les différentes conférences que j'anime, je cite Sartre qui dit « Le problème, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais vous-même, ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. » Et donc, l'objectif, c'est de dépasser cette souffrance, plus voir la vie par le prisme de l'excision.
Alimata Fofana, je conseille la lecture de votre livre, qui est vraiment brut de décoffrage, « Mariama, l'écorché vive » aux éditions Cartala. Pour les voisins qui résident à Bordeaux, je signale qu'ils pourront vous rencontrer le 3 février prochain avec l'historien Pape Ndiaye. Vous êtes l'invité d'une conférence du Black History Month à Bordeaux. Et Isabelle Gillette-Faye, vous appartenez au GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et mariage. Vous êtes la fondatrice du GAMS. Et merci à vous, Linda Veil-Curiel, avocate au barreau de Paris. À demain, les voisins. Merci de votre fidélité.